Arbre. Entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aligre en ce vendredi 11 septembre pour le retour de Chute Libre. C'est la rentrée, on espère que vous avez passé de bonnes vacances, pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir. Alors je suis Emmanuel Gavard, la doublure de Paul de Brancion, vous m'avez peut-être un peu entendu en fin d'année dernière et je vous accompagnerai plus régulièrement cette saison, le vendredi soir, pour, comme toujours, et celles et ceux qui sont fidèles au rendez-vous le savent, pour découvrir des auteurs, des autrices de poésie, pour découvrir leurs ouvrages, leur philosophie, leur sensibilité, cheminer un peu avec eux pendant une heure et avec les musiques qu'ils choisissent. Et de cheminement, justement, nous allons un peu parler ce soir, puisque nous recevons ici Camille Loivier pour son ouvrage « Je la suis devenue », qui est paru chez Lanskin. Bonjour Camille.
Bonjour.
Et donc nous allons parler de cheminement, puisque justement, tout a commencé pour vous par le chemin, les promenades, durant laquelle vous avez fait la rencontre de la voix des colleuses, ces affiches de paroles féministes contre les violences faites aux femmes. Et vous allez nous raconter tout ce qui s'est tissé à partir de cette rencontre et qui a donné lieu à cet ouvrage. Donc, je le répète, « Je la suis devenue » paru chez Lanskin. Est-ce que vous avez pu cheminer aujourd'hui, Camille ? Vous promenez un peu ?
Un peu, oui. J'ai marché pour arriver jusqu'ici. Et il y avait des collages dans les toilettes.
Exactement, il y avait des à la fac, ouais. Il y en a beaucoup. Alors d'abord pour vous présenter, donc vous êtes poétesse, mais aussi et surtout, et on va y revenir un peu plus en détail, vous êtes spécialiste en littérature taïwanaise et de manière plus générale asiatique. Vous avez traduit plusieurs textes et poèmes du mandarin et du japonais au français. Vous avez dirigé la revue Neige d'août, donc de 1999 à 2016, et vous animez des ateliers écoféministes et artistiques, et souvent dans la nature. Vous avez publié donc de nombreux ouvrages, on ne va pas tous les citer parce qu'il y en a quand même un paquet. On peut noter Une voix qui mue, qui est paru chez Potenti, Cardamine, Swift, qui est paru chez Isabelle Sauvage en 2022, Nature en décomposition, Papier peint déchiré, aux éditions Le Petit Flou en 2025, Tori, toujours chez Isabelle Sauvage en 2025. Et donc là, c'est votre premier livre chez Lanskin. Je la suis devenue, un ouvrage qui est vraiment un recueil, qui procède presque justement du collage, avec plein de parties séparées, de la poésie prose qui rassemble sous plusieurs formes différentes parties justement. Et d'ailleurs, je propose pour les auditeurs, avant même qu'on en parle et qu'on rentre dans le sujet, qu'on commence tout simplement par l'introduction que vous avez écrite, qui pose les choses et qu'on arrive tout de suite dans les premiers vers. On vous écoute.
Entre septembre 2020 et novembre 2021, lors du demi-confinement, j'ai sillonné les rues de mon quartier en suivant les collages féministes sur les murs. J'errais de rue en rue, étonnée à chaque mot, phrase, message, allant dans des lieux où je n'allais que rarement, portée par mes pas et non par un but, glanant, flâneuse et vagabonde. La ville, jusqu'alors muette, hostile, est soudain devenue parlante, généreuse, inclusive. Elle n'était plus objective, mais subjective, pleine d'émoi et d'attention. Quelque chose avait changé. J'ai pris des photos pour garder l'empreinte, la mémoire de ce moment. J'ai tracé l'itinéraire des jours et des lieux. Il y avait là quelque chose de magique. Certes, quelques-unes avaient collé ces affiches, mais ne m'étaient-elles pas adressées ? Ne m'étaient-elles pas données en partage ? J'ai ainsi voulu leur répondre, afin d'exprimer ma gratitude, les remercier par mes mots, mes murs et mes silences. Les collages ont persisté jusqu'à ce que j'en fasse à mon tour l'expérience en 2023 et persistent encore aujourd'hui.
Ce serait le début, mais tout aurait commencé avant. Il me faut toujours du temps, contempler d'abord, écouter, recevoir, partir. Puis le désir naît, de l'attente, du temps, Le plus souvent, ça s'est envolé, c'est trop tard. Lente, ou indécise, ou vagabonde, ou... Cela fait-il partie de la liste des vices et vicissitudes féminines moyenâgeuses ? La liste est longue.
Samedi 10 octobre, 16h. Le sexisme est partout. Nous aussi. Rue du M. Le styling s'est violé. Rue Doudoville. Soutien Imane Boun. Rue des Poissonniers.
On voit. On est. Des femmes se prostituent dans ces rues, qui se croisent, qui se soulèvent, dans ces rues pauvres, commerçantes, longues jambes essoufflées, murs gris sales, délabrés, qui sont de quel côté quand on leur demande, ils le disent.
Des coins où je ne traîne pas, un quartier embrouillé de ruelles où je me perds, la nuit tombe à chaque fois que j'y vais, car quelque chose est gris, comme à la chute du jour.
Quand je sors, j'entre dans la ville, fermé à mes incursions, enfermé dedans. Je traverse les murs, fantômes qui se cognent, qui fuient, se dépêchent en quelque sorte.
Pendant longtemps, et jusqu'à aujourd'hui peut-être, caméléon, corneille avec brindille dans le bec pour le nid, et dans une forêt arbre, feuille seule et feuille dans l'arbre, pie avec la pie, chien avec le chien. C'est pour éviter cette multiplication que je recule souvent en moi-même. Face au mur, je deviens mûre, cloquée et boursouflée, écaillée, brune ou grise, peau vivante et peau rongée. S'appuyer contre.
Maison qui enferme, étouffe en même air pauvre, saturé. Odeur de renfermé, de mouvement réduit qui ne donne pas de force. Elle devient brève, sourde et craintive. Dit Moyen-Âge, qui continue de me dicter ma conduite par-devers moi. Les prédicateurs incitent les jeunes filles à la timidité. Se peut-il que ce que j'éprouve, au cœur d'un moteur tournant à vide, tourment bloqué et broussailleux, m'ait été inculqué par des textes moyenâgeux reprenant des préceptes antiques ? Pas lu, pas su qu'ils existaient, pas pu leur échapper.
Alors il faudra excaver, car si mon visage n'est pas mon visage, alors je n'ai plus de visage et c'est pire. Et que cette timidité les rend apeurés, les fait se comporter comme des animaux sauvages. Alors il ne me reste rien, rien qu'à arpenter les rues, raser les murs. Dans ce cas, je veux sortir effrontément. Avoir des gestes démesurés. Dans ce cas, j'entre dans la catégorie des instables tourbillonnantes, désordonnées. Il doit y avoir un antre, une antre.
Merci, merci Camille Loivier pour ce début donc qui a été inspiré, qui est né donc de ces balades pendant la période du Covid où vous avez découvert le travail des colleuses. Est-ce que vous le connaissiez avant ?
Non, pas du tout. Je ne sais même pas s'il existait avant cette période. Peut-être il y a déjà eu des collages, mais j'ai l'impression que c'est...
C'est arrivé à cette période-là.
Oui, c'est à ce moment-là, en tout cas, que ça s'est énormément développé. En tout cas, ces collages féministes particulièrement.
Et le premier que vous avez vu, vous vous êtes demandé ce que c'est. Est-ce que c'est la répétition qui a créé quelque chose en vous ? Est-ce que le premier que vous avez vu, vous avez cherché ce que ça voulait dire ?
Le premier, c'était « Je te crois ». Et je me suis dit « Ah, qui me croit et me croit quoi ?» Et je me suis dit « Oui, mais pourtant, ça s'adresse à moi. » Et ça m'a... C'est comme si ça m'interpellait et j'avais envie de dire « Ah, merci de me croire. »
Merci de me croire.
Et
alors, c'est ce que vous dites justement dans l'introduction que... tout ce recueil qui est fait donc de plein de choses différentes, parce qu'il y a plein de choses qui se sont organisées après en vous, mais c'est né aussi d'un remerciement envers les colleuses, comme pour les remercier en tout cas.
Bah oui, je les remercie d'avoir pris cette parole et de l'avoir collée sur les murs, et de faire que la rue justement ne soit pas toujours un lieu où on fuit, on passe, on se dépêche, où on se sent quand même pas très confortablement, pas très accueilli. Il n'y a pas d'hospitalité dans la rue. peut-être plus pour les femmes ou bon, certaines personnes, mais dans ce cas-là, j'ai l'impression que je pouvais prendre le temps, m'arrêter et aussi sortir des vitrines, en fait. Au lieu de regarder des boutiques, il y a des murs à regarder, il y a des paroles à lire, il y a des vies à comprendre. Donc c'est un tout autre rapport à la ville qui a apparu à ce moment-là pour moi.
Ça a changé aussi donc, vos promenades de...
Oui.
Elles ont pris et on voit qu'à un moment donné, il y a tout un passage où ça vous... C'est presque un monde. Vous allez vous balader pour regarder.
Ah oui, oui. Chaque jour, j'attends les nouveaux collages et je regarde ceux qui ont été déchirés et dans quel état ils sont et combien de temps ils restent. Je te crois, il est resté le plus longtemps possible et les autres, dès le lendemain ou une heure après. Et oui, c'était devenu essentiel. C'est comme une nourriture, comme...
Ça devient presque une quête, presque, de cette parole que vous allez chercher. Et alors, le début, ça se présente presque comme un carnet. Où vous annotez les noms des rues, les poèmes que vous trouvez. On en voit des abîmés. Il y a un petit passage là où on ressent beaucoup France, un viol toutes les 7 minutes. Rue d'Oran, 11 octobre. L'ampoule brûle au milieu du jour dans le rectangle noir de cercueil. Un corps glacé ne comprend pas qu'il n'est pas mort, pas seulement mort. Il attend la nuit pour bouger, que toute sensation se désagrège plutôt que s'enfoncer. Elle ne s'éteindra pas. L, E, Q, T, F, il la tue. Sortir pour lire les collages est devenu nécessité.
Oui, alors effectivement, je note la rue parce que je note le moment. Parce que ça me paraît essentiel d'inscrire ces paroles justement dans un temps et dans un lieu. Et de comprendre ces lieux qu'on traverse en général sans lire, sans regarder. Et c'est après que j'écris un poème, hein, comme celui-là sur l'ampoule. Ça vient aussi de la photo, le moment qui a surgi en moi au travers de cette image et de ce qu'on peut imaginer derrière les murs. Et puis les collages aussi qui sont déchirés, arrachés. Et donc ça devient une autre parole qu'on ne comprend plus, mais qu'on devine et qu'on essaie de comprendre. Et tout ce travail avec les mots, leur signification cachée, leur appel, ce qu'on peut rajouter, ce qu'on peut changer dans ce qui a été dit, tout ça fait que c'est une nécessité finalement de lire ces collages et de les réinterpréter, de les traduire un petit peu pour moi.
Il y a ce passage que je trouve absolument très fort, ces deux lignes. J'en reviens à l'émotion d'être présente parmi ces mots. On ne choisit pas ce qu'on écrit. On choisit d'écrire. Mmh. Et tout le geste des colleux, justement, de reprendre cette parole, pour moi, est traduit dans ces deux vers. À un moment donné, on choisit de parler, d'écrire, de projeter cette voix et de la coller sur les murs.
Oui. Et ce choix, il se fait en réponse à quelque chose du dehors qui appelle. C'est pas forcément quelque chose qui vient de soi, d'une sorte d'inspiration intérieure. C'est vraiment... un dialogue déjà qui se fait avec le monde, avec une partie du monde invisible, parce que ces femmes, bon, je ne les ai quasi pas rencontrées, hein, j'en ai entendu parler, j'ai entendu leur voix, mais pas nécessairement rencontrées, ou presque, pas certaines. Mais en fait, il y a ce rapport comme ça, avec une multitude qui est encore invisible, mais qui est en tout cas audible.
Come ti inganni se pensi che l'anni non hanno a finire. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che pare si gradita e breve il gioire. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna bisogna morire, bisogna morire. I giovani putti e gli uomini tutti tutt'anno a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. sani, gli infermi, bravi, gli inermi, tutta la finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Sur Radio Aligre, c'est Chute Libre. Je suis avec Camille Loivier pour parler de « Je la suis devenue » paru aux éditions Lanskin. Et là, vous écoutiez donc une musique qu'elle a choisie, la « Passa Caglia della Vida », un célèbre air qui a été repris par Birds on a Wire. On va pas accrocher leur nom. Avec Dom La Nena et la chanteuse franco-américaine Rosemary Stanley. Un duo de deux femmes, donc, qui chantent. Donc, Je la suis devenue, ce livre, ce recueil inspiré, qui est né par cette rencontre avec les colleuses lors de vos promenades. Et on parlait de ces mots qui, à un moment donné, vous appellent à répondre. Il y a quelque chose qui saute aux yeux quand on lit aussi, quand vous, justement comme c'est un peu par un carnet, que vous notez le nom des rues, la parole des femmes, le nom des rues, la parole des femmes. C'est l'incroyable nom de rue d'hommes. Oui. Et de les voir écrits les uns à la suite des autres, ces paroles de femmes, ces noms de rue d'hommes, c'est assez incroyable à voir, à lire comme ça.
Oui, effectivement, j'ai voulu compléter ces collages par le nom de la rue. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, Francoeur ? Qu'est-ce que ça veut dire, Clisson ? Et effectivement, c'est très souvent des noms d'hommes célèbres, hein, comme Becquerel, le physicien, mais souvent aussi des noms de propriétaires. Il y a très peu de femmes, il y en a très peu, je vois rue Leibniz, je ne suis pas sûre. Il y en a quelques-uns dans les quartiers, les rues nouvelles, mais tout ce qui est plus classique, c'est que des hommes. Et il y a juste la rue de la Bonne, qui est en fait la rue de la Bonne Eau. Donc, ce qui montre qu'il y avait une source à cet endroit-là qui n'y est plus. Bon. En fait, on voit que tout ce qui est nature et féminin a tendance à disparaître derrière le général napoléonien du M, par exemple.
Par exemple. Il y a ce qu'on remarque, parce que je ne sais pas si ça existe des recensions comme ça de tous les travaux des colleuses, ou en tout cas toute cette expression des colleuses, je ne sais pas si ça existe.
Si, il y a eu plusieurs livres, j'en connais plusieurs, qui récoltent des photographies et leurs propos. Et en fait, dans chaque ville, il y a eu des groupes de colleuses, et à Paris, il y en a plusieurs, il y en a une par quartier, je dirais, ou par arrondissement, en gros. Et effectivement, chacune a développé sa propre esthétique, son style, ses horaires. Et je pense qu'elles ne se connaissent pas toutes forcément. Et voilà, c'était vraiment, je pense, quelque chose qui est venu spontanément et qui s'est multiplié.
En tout cas, on perçoit tout à fait le geste de réappropriation de l'espace. Oui. Et de voir cette parole de femme à côté de ces rues d'hommes, ça donne quelque chose ça donne un mouvement et quelque chose de très très fort dans le fait de l'apercevoir comme ça. Alors par la suite, comme on le disait, en fait, ce travail des colleuses vous a fait naître ce besoin, cette envie de les remercier, de répondre et d'exprimer tout ce que vous ressentiez à ce moment-là. Mais derrière, ça a aussi organisé d'autres choses en vous, d'autres textes, on en parlera tout à l'heure, de textes écrits d'avant ou d'autres idées. Après, on parle du mur des revenantes. Oui. C'est toute une partie qui est dédiée au mur des revenantes. Je propose qu'on commence. Mur des revenantes. Alors, vous allez me dire si je prononce mal, parce que ce sont des mots asiatiques. Donc, les gouis reviennent, revenantes, hurlements ou plaintes, rien d'autre, ont-elles été. Vagues des cris de fantômes sur les murs des relais de poste, vagues de craquements, de bois grincés, de pierres soupirées, et à la surface l'empreinte. Vite, les poèmes, car elles écrivent les revenantes, mots évaporés, murs des mortes qui parlent aux murs, mots prononcés sans voix dans le cauchemar guttural, l'espoir d'un dit au dernier moment. Galop de cheval, poème copié accru. Vous pouvez lire la suite,
ouais. Oui, d'accord. Écrit juste avant d'être mot ou juste avant de mourir. La pas encore morte, la veuve, dans le pas encore mot, faille où se faufile. Les femmes se pendent aux poutres des greniers, discrets, se noient dans n'importe quelle eau stagnante, pas une goutte de sang. Seul le poème revient, tandis que la revenante se retire. Visitée en rêve, tandis qu'il la voit en rêve, elle le pénètre plusieurs mois durant, puis le quitte, appelé à renaître. Rêveur ou rêvé, la mémoire reste seule au seuil du rêve. Elle laisse un poème sur le mur de rêve avant qu'il ne s'effondre, et c'est mélancolie à vie.
Alors, plein de questions. C'est quoi ce mur des revenantes? C'est...
En fait, les murs des colleuses, ça a aussi fait coïncider mes propres lectures, des lectures qui sont plutôt dans le passé, des lectures historiques, et aussi des lectures dans la Chine ancienne, et particulièrement la dynastie des Qing, donc 1644-1912, pour laquelle j'ai fait beaucoup de recherches et traduit des poètes, des poétesses. Essentiellement des poétesses. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à rechercher leurs poèmes qui étaient un petit peu à la fin des poèmes, à la fin des recueils des poèmes des hommes, soit leur père, soit leur frère, soit leur mari, mais pas de leur propre recueil. Et ensuite, il y avait tout un... Dans la collection de cette poésie, d'anthologie poétique des Qing, il y avait le dernier volume où il y avait poèmes... poèmes de rêve, poèmes berceuses et poèmes de fantômes. Et donc les poèmes de fantômes sont souvent aussi des femmes hein, justement qui ont mis fin à leur vie pour échapper à leur sort atroce, soit de leur époux qui a 75 ans de plus qu'elle, ou de leur belle-mère qui les tape. Et en fait, au XVIIe siècle, il y a une sorte de mode de recueillir ces poèmes de fantômes. Ils apparaissent sur les murs, peut-être ont-ils écrit à l'eau ou bien à l'encre, mais si on ne les retranscrit pas dans la seconde qui suit, ils disparaissent. Et qui s'approprie donc ces poèmes de femmes revenantes? Ce sont les hommes, les lettrés,
évidemment.
Qui sont à cheval et qui passent.
Oui, qui vont évidemment.
Évidemment. Évidemment. Ils s'en font une écharpe nouvelle de leur imaginaire. En même temps, c'est aussi la mode où ces lettrés, toujours les mêmes, les hommes, ils s'ouvrent à l'écoute de la parole féminine et de la poésie féminine. Alors les femmes n'avaient pas le droit ni d'apprendre à lire, ni d'apprendre à écrire, mais elles avaient toujours des frères en train de besogner, et peut-être qu'elles avaient plus d'acharnement qu'eux qui étaient obligés, alors qu'elles, ça leur était interdit à apprendre la langue. Donc finalement... la noblesse, hein, bien sûr, c'est pas le peuple. Les femmes de la noblesse devaient toutes savoir plus ou moins écrire et plus ou moins lire. C'est lié. Donc ces femmes réapparaissent au XVIIe siècle, voilà, XVIIIe siècle, c'est une mode pour les hommes d'inviter des femmes dans des petites leçons, des cours, et à leur proposer d'écrire.
D'écrire, très ouais, bien.
Mais c'est deux choses différentes, hein, puisque vraiment les poèmes de revenantes, c'est quand même des plaintes, c'est des hurlements après ou avant la mort, on ne sait plus. Si elles reviennent, c'est qu'elles sont plutôt mortes. Mais pour dire leur misère, pour hurler voilà, leur souffrance.
Leur souffrance d'avoir, oui. D'avoir vécu un ces destin... vies-là avec, par les hommes.
Oui, un destin qui n'avait aucun sens et préférait mourir.
Donc un écho direct aux violences oui. Subies par les femmes et finalement le même geste ou la même volonté que les colleuses de sortir ces mots, d'habiter l'espace, d'habiter de faire exister ces choses-là dans un espace public. Qui essayent justement de le masquer.
Exactement. Elles ont, en un seul poème, elles ont dit toute leur vie, elles ont dit toute leur souffrance. Alors, qui les a écrits, bien sûr, nous ne saurons jamais, hein, véritablement. Mais peu importe, hein, que ce soit un espace imaginaire ou un espace réel, c'est vraiment cette même souffrance qui arrive à exploser sur les murs et à se réfléchir ensuite dans les livres, puisqu'on les conserve et on les trouve beaux.
Il y a quelque chose qui, justement, donc vous êtes spécialiste de la littérature asiatique, il y a beaucoup de références, et en fait ce qui ressort, ce qui transparaît de tous ces textes, ces hommages, alors parfois dans le passé, parfois plus actuel, on va y venir juste après avec Goulbard, Haïti Waji, en fait il y a une universalité de la violence faite aux femmes et de ce besoin de prendre la parole qui transparaît et qui explose quand on lit l'ouvrage.
Mais c'est ça, on s'aperçoit que ça ne se limite pas aux rues de Paris.
Exactement.
Bien sûr, évidemment, à tout le passé, côté européen, et hop, on traverse l'autre côté de l'Asie, et on s'aperçoit que c'est la même chose, la même tragédie, le même étouffement, le même enfermement. On rappelle que les Chinois sont spécialistes des pieds bandés, hein, ce qui empêche les femmes de marcher, donc de se sauver, donc éventuellement d'avoir une vie à elles. Et on voit, c'est inscrit dans les corps, c'est inscrit dans la parole, dans les mots, c'est inscrit dans le corps des femmes. Et peut-être maintenant, c'est l'époque où justement ces corps ont envie d'exprimer cette violence ressentie et de la faire sortir de leur corps, pour enfin avoir un peu plus d'espace et de souplesse.
Alors vous en parlez justement, je voudrais un petit... quelque chose qui est, sur Goulbard et Tiwaji. Alors j'espère que je prononce bien son nom, vous me reprenez, n'hésitez pas si jamais...
Je ne sais pas, parce que c'est du Ouïghour, donc là, je ne suis pas du tout...
Et alors, en fait, justement, le livre est égrené d'hommages, comme ça, à des figures. Ouïghour torturé et violé, rue d'Oran, 11 octobre. Donc ça, c'est un collage. À nos sœurs Ouïghours, stérilisées de force, rue Marx d'Ormois, 20 octobre. Et alors après... En hommage à Goulbard et Tiwaji. Gul et rose, bar, printemps. Dans la confidence de retourner chez soi, j'ai bel et bien disparu, enchaîné au barreau du lit. C'est le printemps au Laogai.
Laogai.
Laogai. C'est le printemps au Laogai. Les mots, ingurgités dans la bouche, le ventre, ont brisé le stérilet. C'est un immense désert de cailloux gris, sous un centre de détention.
Sur l'or qui brille noir, les bras le long du corps, chaque matin, elle récite le mandarin du règlement par cœur. Chez soi, elle n'est plus. Les longs cheveux noirs brillants de aîné coiffés par sa mère, sont coupés courts, près du puits. Le cerveau est lavé, coule, printemps, bahar, rose.
Est-ce que vous pouvez juste... Parce que en Occident, on parle pas énormément... peut-être pas assez, des Ouïghours, nous expliquer qui est Goulbard, donc Rose, Printemps, Haïti, Waji.
Alors, effectivement, on ne parle pas du tout des Ouïghours, alors que c'est une population des confins de la Chine qui est complètement opprimée. Et on peut dire que c'est un génocide aussi, puisque depuis maintenant, je ne sais pas, une vingtaine d'années, je pense que... Chaque homme qui dépasse la quinzaine d'années est emmené dans des camps à ciel ouvert. Alors on peut dire que les femmes n'ont peut-être pas ce même sort, mais elles sont surveillées et donc stérilisées de force. Hein, stérilisées de force pour ne pas avoir trop d'enfants. Donc c'est une situation absolument insoutenable, et ce qui fait que c'est impossible d'aller dans ces régions pour les étrangers, enfin les surveiller. Chaque boutique a un portique électronique, enfin, c'est vraiment ignoble. Et donc c'est pourquoi ? Parce qu'ils sont Ouïghours. La seule raison, c'est qu'ils habitent cette région, le Xinjiang, alors nouveau territoire, donc il y a la frontière de... Je ne sais plus, les Tadjikistan et les autres pays. Et donc c'est un lieu aussi désertique, un lieu donc... d'essais nucléaires, de pétrole, toute l'horreur du capitalisme dont les Chinois, soi-disant communistes, se font un fleuron. Donc ils n'ont pas leur place, ils doivent disparaître, on les utilise, on les fait de travaux forcés. Donc, cette Gulbahar Aitiwaji, je la connais par un livre qui s'appelle Rescapé du goulag chinois. En fait, Gulbahar, c'est son prénom, et ça veut dire printemps rose. Et donc, elle est française, enfin, demi-française, et en tout cas, elle vivait en France. Et elle a été rappelée par les Chinois pour leur dire « Revenez chez nous, madame, vous allez avoir votre retraite, bien payée, tout ça. » Et en fait, c'est un piège que les autorités chinoises... aux exilés, à ceux qui sont sauvés hors des frontières. Et elle a cru naïvement que tout allait pour le mieux. Et puis peut-être elle avait envie de revoir sa famille. Et en fait, une fois là-bas, ils ne l'ont pas lâchée, ils l'ont enfermée. Et puis au bout de quelques années, grâce à la diplomatie, elle a pu quitter la Chine. Et donc, il y en a un récit.
Et il y en a un récit. Et là-bas, donc, elle devait réciter le règlement par cœur tous les matins.
C'est le lavage de cerveau, en fait. Il ne faut plus rien penser, il ne faut plus rien dire, il faut dire amen à tout le gouvernement chinois. Ouais, c'est terrifiant.
C'est une femme qui danse, disait-il. Une femme qui danse et qui prononce en même temps tous les mots de la langue. En un instant, elle prononce tous les mots de la langue. Et son corps semble très léger et elle tourne sur elle-même. Elle danse avec une robe épinglée au corps, comme dans une étrange comédie américaine. Elle danse des nuits entières sans fatigue, comme si elle n'était jamais fatiguée. Jamais fatiguée, qu'elle ne voulait jamais dormir, jamais dormir. Elle danse avec beaucoup de douceur, très près du sol. Chaque mouvement de son corps est une fuite lente. Et par moments, elle tourne sur elle-même. Elle tourne jusqu'à ce que je perde ses bras, ses jambes, tout son corps, jusqu'à venir ruisseler sur mon visage, jusqu'à n'avoir plus d'ombre, plus de mouvement, jusqu'à faire fondre autour d'elle les pierres et les métaux, jusqu'à ce que l'air ambiant semble une propriété de son propre corps. En plus lent, elle se penche vers moi et je sens passer l'air dans ses poumons, je sens les sons se former dans sa gorge et je sens ses paroles sortir de sa bouche et venir jusqu'à moi.
Sylvaine Ellary sur Radio Aligre avec Glowing Life, un titre qui dépote,
oui.
qui donne de l'énergie, en tout cas. Chute libre, je suis avec Camille Loivier pour son ouvrage « Je la suis devenue », née inspirée, on va dire, par le travail des colleuses qu'elle rencontrait en promenade et qui a donné lieu à toute une expression sur le féminisme et la violence. Et de violence, justement, on va parler avec avec ces murs. On a vu le mur des revenantes et ce que ça signifiait. Et maintenant, on va voir les murs déchirés. 27-28 janvier 2021, rue Becquerel. Il ne reste que les guillemets ouverts, fermés, entre le silence, parfois papier déchiqueté au sol. Un bâillon sous lequel une bouche a été effacée, le crépi en soulèvement.
Ils ont tout pris d'elle, L'envidée de sa phrase, plane, flageolante, qui n'a plus d'elle-même aucun souvenir, corps parti, il n'en reste rien, qu'un désir de parole, un long, lent respire, jaloux de sa vie.
Maintenant je vais vers les écorchés, ceux qui restent accrochés. J'ai plus de raison d'être pour elle, les bribes jetées sur le trottoir, poussées dans le caniveau. Vers les phrases méconnaissables défigurées qu'elles déforment le mur quand il redevient nu. Ce sont leurs traces que l'on cherche, que l'on voudrait voir, remontées du crépi, empreintes des mains qui les ont posées, féminines, et de celles qui les ont arrachées, masculines, car je n'ai pas vu de mains féminines les retirer de force. Tout ce que ça évoque, c'est ces collages que vous voyez pendant vos promenades. Vous les voyez évoluer avec le temps. Donc, on voyait tout à l'heure des mots qui partaient, ça crée des poèmes. Ouais. Mais il y a aussi toute cette violence épidermique du mur qui remonte.
Oui, parce que y a tout, les collages, on les décolle, on les arrache.
Et ça, vous l'avez vu, des hommes arracher.
Oui, j'ai vu plusieurs fois sur un même mur, un homme qui était horrifié par ses paroles.
Horrifié
de voir son beau mur blanc et sale, recouvert par des mots qu'il trouvait insupportables. Oui.
Ça me fait penser au nom de rue de propriétaire.
Oui.
C'est toujours le même rapport.
Oui. Et ensuite, après, ces murs sont badigeonnés de blanc pour qu'il ne reste rien, pas une seule trace, pas un petit bout de papier. Et c'est vrai que finalement, c'est après ce papier lui-même froissé, ces mots déchiquetés qui ont attiré ma compassion plus que les mots eux-mêmes, qui sont quand même une force, une vie. Et de voir ce qui aussi tombe dans l'échec, qui se laisse oublier, qui se laisse violenter encore. Mais j'avais envie de leur redonner cette chance aussi d'exister dans le livre, à ces guillemets, avec plus rien au milieu, enfin, ces mots déchirés.
Ces restes de voix qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus, mais en fait, il y a encore la trace de la voix.
Oui, de garder tout ce qui reste, de garder le souvenir de tous ces actes. L'acte de joie et de force de le coller, de l'imprimer et de le faire lire, mais aussi ce qui se passe après. Parce qu'après... on revient en arrière, on oublie, on efface, et tout ce qui a été dit semble ne pas avoir existé. On est toujours dans ce silence, dans cette violence du retour au silence, de faire comme si il s'était rien passé finalement.
Alors que le but c'était de dire ici quelqu'un a parlé.
Oui.
Ici quelqu'un est venu et a parlé.
Et on peut suivre sa parole et on la croit et on le comprend et on peut le vivre et le reconnaître.
Et surtout que ce que vous avez vécu en voyant, ce que vous nous avez décrit tout à l'heure sur ce qui s'était passé en vous quand vous avez vu ces collages, d'autres peuvent le vivre aussi.
Oui.
Et il faut que ça véhicule, que ça se transmette. Et donc justement de tout cette violence ou cette vie que les murs subissent, vous en faites ce que vous appelez un dermographisme, murgraphisme. Et donc là, il y a encore des hommages, mais vous allez parler d'une brève histoire du corps cliché.
Ouais.
Le but, c'était de faire justement tout ce rapprochement entre le mur et le corps, c'est ça ?
Le mur, la peau, oui. Toutes ces surfaces, en fait, ces surfaces qui ne sont pas justement juste un vernis, mais qui correspondent à un derme vivant, et de montrer qu'est-ce qu'il y a sous la surface et qui remonte, et aussi ces cicatrices qui restent sur les peaux. Et qu'est-ce que ça veut dire que cette peau aussi, c'est le lieu où on va écrire, le mur ou le derme ici, ou le papier, c'est cette surface sur laquelle on écrit, et c'est donc la mémoire. La mémoire du corps, elle remonte en nous des siècles après des siècles et des kilomètres après des kilomètres si on est dans la géographie. Et là, d'avoir cette question du derme et de ce dermographisme inventé au 19e siècle, c'est toujours le même geste masculin de prendre possession, le propriétaire, et d'inscrire son empreinte alors qu'il n'y a rien, alors qu'il n'a rien fait. Alors qu'il n'est nul lui-même.
Et de marquer que lui est là,
Lui est là, alors qu'il n'y est pas.
Alors qu'il n'y est pas. Et qu'il n'a pas à y être.
Il n'a pas à y être. Il n'y est pas. Il est absent, il est vide. Il est l'inanité même. Mais il ne peut qu'être justement cette transparence. Il ne peut qu'être cette fausse surface qui est un vernis qui ne veut rien dire. Mais voilà, c'est lui qui tient le pouvoir. C'est lui qui tient le stylo. Et donc, il prend la place. Et c'est immonde, encore une fois, ce qui a été fait à ces femmes.
Et là, donc, vous donnez, parce que vous enfoncez le clou, et vous parlez de ce geste qui dépasse les époques et qui dépasse les géographies. Donc, vous nous parliez déjà tout à l'heure, au-delà des époques et des géographies, des murs des revenantes, ces femmes qui écrivaient, qui n'avaient pas accès à l'écriture, mais qui écrivaient des poèmes quand même. Et là, donc, ce sont trois courts hommages à la mémoire d'Eugénie versus Dr. Schilder, à la mémoire d'Augustine versus Dr. Barthélémy, qu'on peut en lire quelques-uns, vous pouvez, allez-y. Hein.
Oui. À la mémoire d'Eugénie versus Dr. Schilder. Je reviens à la boursouflure, une peau sensible qui rougit, une délicatesse qu'ils n'ont pas, jusqu'à la partie la plus sensible, faire entrer la violence. À la mémoire d'Augustine versus Dr. Barthélémy. Il écrit son corps en plein dessus, séparé d'une blouse blanche tandis qu'elle nue, trace d'ongles au bout du doigt maigre, peau magique, il inventerait la lune, elle le piétine de sa simplicité. En mémoire de Célina versus Docteur Charcot. Graffiti sur sa peau, tout le corps, il griffe, ne se force pas à sourire, le mal est en eux. Éraflure échevelée, daté, signé, un corps de femme écrivant sans main. Et ce sera quatre cautérisations au fer rouge jusqu'à mort. Oui, ce dermographisme, en fait, c'est juste la peau qui boursoufle un peu parce qu'elle est hypersensible et qu'il commence à inventer que c'est un langage bien sûr diabolique. Et ensuite, il commence à écrire sur cette peau des mots, leurs noms, enfin... C'est tout à coup, ils ont l'impression qu'ils inventent la femme, qu'ils créent la femme, qu'ils sont enfin enceintes, ce qu'ils ne seront jamais, et qui est leur désespoir depuis le début de la civilisation.
La civilisation, on peut le dire.
Grec, en tout cas. Hein, on voit Lucien, qui est un auteur grec, qui parle de ça, de cette espèce de désespoir des hommes, de naître d'un corps de femme et non pas de la terre. Ils voudraient naître de la terre, de la bonne terre grecque. Et donc, ils s'inventent des choses. Ils coupent un petit bout de doigt de pied, le mettent dans la terre. Ils espèrent qu'ils vont faire un garçon comme ça.
Que va germer un nouvel homme. Ouais. Et qu'ils auront enfin le pouvoir de décider de la vie.
Exactement. Cette grande puissance qu'ils n'ont pas et qu'ils cherchent toujours à avoir aujourd'hui.
Toujours de fabriquer la vie. Et finalement, toute cette violence, pour certains, est une résurgence de ce manque.
Ce notre manque, et la création sur la peau, la création, pendant aussi de très nombreux siècles, écrire pour une femme était interdit, parce que finalement la création, la femme procrée, voilà, bon, elle ne sait pas trop ce qu'elle fait, mais l'homme crée. Donc il y a toujours cette opposition l'une à l'autre.
La femme crée l'homme qui crée, donc elle procrée.
Elle procrée. Elle est toujours un vase, un récepteur, et la création, c'est l'homme. Bon.
Thank you.
C'était la pavane pour piano à quatre mains de Mel Bonis, intitulée Le songe de Cléopâtre sur un ligre. Nous sommes dans Chute libre avec Camille Loivier pour son livre Je la suis devenue, sur tout un travail féministe inspiré des colleuses, du travail des colleuses. Donc on a évoqué toute cette violence sur les murs, toute cette violence qui dépasse les frontières, qui dépasse l'histoire. Mmh. Vous nous avez rappelé énormément de choses là-dessus. Et il y a ce chapitre qui arrive, réparer les murs. Parce que quand même, on peut peut-être réparer les murs. Et donc là, énormément de mots et qui mélangent, et parce que vous êtes donc une spécialiste de la littérature mandarine, qui mélangent donc les mots mandarin et le français. Et vous nous proposez une muraille de femmes, d'abord. Mmh. Alors une muraille avec, il faut le voir, mais avec un mur de symboles mandarins et on peut lire un extrait de ce que ça veut dire, justement.
Oui. Alors oui, muraille de femme, c'est donc fait des caractères mandarins qui ont toute la clé principale du caractère de la femme. Et donc, après, j'ai traduit ces mots, mais ils ne sont pas tous, hein, il y en a beaucoup, qui ont souvent le rapport aux femmes, hein, quand même. Donc, ça veut dire votre fille, paix, posément, s'entretenir dans une pensée, dans un sentiment, table, procès, pressé. Mettre la main sur, réprimer, moi, cette vieille femme, esprit de la terre, courtisane, déesse de la lune, danseuse, nom de la dynastie des Chou, jalousie, gracieux, choyé, tintement des pendentifs en jade, etc.
Mais là, là, c'est très intéressant de voir les langages qui se mélangent, parce que du coup, vous recréez un mur avec les dessins. Et est-ce que ça. Et alors après, vous nous proposez, avant de rentrer là-dedans, un brique de mots pour un dictionnaire féminin. Oui. Et donc là, vous faites un travail de dictionnaire avec des définitions.
Voilà, donc là je prends des caractères qui existent. Soit je recompose un petit peu la définition ou j'en invente. Hein, par exemple, le mot qui veut dire harcèlement. Donc c'est deux caractères qui veut dire masculin. Et au milieu, il y a le caractère qui veut dire féminin. Donc, on voit que le harcèlement n'est forcément que d'hommes contre des femmes. Donc, j'ai inventé un caractère. Bon, là, j'essaie de le reproduire, mettre deux femmes et au milieu, un homme. Bon, ce qui voudrait dire un petit peu, non pas harceler les hommes hein, par vengeance, qui serait un peu stupide, mais simplement de montrer que, bah oui, on peut aussi avoir une force. Et il y a un caractère signe, alors là, qui existe complètement, hein. Nom de famille signifie femme qui donne vie et naissance. Tout ce qui vous appartient est dans son nom de famille. Une langue témoigne, malgré elle, rend visible l'évidence d'une femme naître, d'une culture matriarcale. Et tout cela a disparu derrière un mur. Ce qui est étonnant, que cette culture chinoise qui est vraiment patriarcale dans tous les sens, le mot qui veut dire nom de famille, c'est femme donne naissance. Ils n'ont pas pu effacer ça.
Ils ont laissé ça dans le langage.
Oui, ce qui est énorme en fait. Ce qui veut bien dire que les clans ancestraux, c'était avec une matriarche, avant la rationalisation et la patriarcalisation, je ne sais pas comment dire.
La réappropriation,
en tout cas, de ce pouvoir. Donc, on pourrait s'amuser indéfiniment avec des caractères, inventer des poèmes. Et c'est ce que j'ai fait un petit peu dans ces pages.
Petit détour par le langage, parce que du coup, vous avez passé énormément de temps dans votre vie à traduire les poèmes des auteurs chinois ou taïwanais.
Taïwanais plutôt.
Et du coup, donc, à travailler sur la langue des autres et les poèmes des autres et à les transmettre en français. Qu'est-ce que ça crée chez vous dans ce rapport au langage? Est-ce que vous avez analysé ce que ça pouvait changer chez vous, ce double langage?
Ça change tout, hein, parce que la langue mandarin, c'est une langue qui n'a absolument rien à voir avec notre langue, évidemment, ni surtout dans la grammaire. Et en fait, tout ce que ça fait venir un corps étranger dans son propre corps, mais c'est aussi sa propre langue qui, tout à coup, se délite, hein, parce qu'elle est traversée par d'autres façons de penser et de vivre. Et tout ce qu'on croit un peu naturel, alors qu'on a souffert à l'école, ça s'est Fritz. Est-ce que c'est vraiment comme ça, ça le sens se perd et toute la grammaire, la conjugaison est interrogée. Et pourquoi je mets tel temps, et pourquoi je mets au pluriel, et pourquoi je mets au passé. Et donc, c'est une espèce de révolution. Et oui, au départ, moi, je me suis sentie complètement perdue entre ces deux langues, ces deux grammaires, ces deux façons d'écrire. Et ensuite, après, c'est tout le bonheur, c'est de réfléchir, c'est ce retour, hein, c'est comme un boomerang retourné vers sa propre langue et la réinterroger et en voir toute la beauté.
Ouvrir de nouvelles portes dans sa propre langue parce qu'on s'est confronté. Et alors, il y a cette notion qui traverse tout le livre et que, justement, de vous entendre parler de ça, je trouve que ça donne encore plus de cohérence. Toujours, on parlait de ce poème qui naît par frottement, ce cheval au galop. Vous parliez de voir les poèmes sur les murs et qui, à un moment donné, va créer comme déjà un dialogue chez nous. Et là, en fait, avec la langue, c'est toujours pareil. On va puiser, finalement, dans l'altérité, dans ce qui n'est pas nous, quelque chose qui va nous permettre de sortir notre propre langue.
Oui, effectivement. Et c'est un mouvement d'aller-retour incessant. Et effectivement, la pensée chinoise, c'est quand même un mouvement. C'est un changement perpétuel. Et la langue le dit aussi. Elle est dans l'action perpétuelle. Elle ne s'arrête pas. Je ne veux pas se figer. Donc tout ça, ça ce qui bouge, le français, qui lui, au contraire, est un peu figé, un peu raide. Et donc ça l'oblige à bouger ses articulations, à s'assouplir un peu, à reprendre aussi une vie. Donc c'est dans les deux sens, c'est des allers-retours, oui, mouvants, de connaître l'autre et de se connaître soi-même.
Et le fait que le mandarin procède par idéogramme rend justement l'approche symbolique beaucoup plus forte. Est-ce que les symboles ont plus de sens qu'en français?
Alors moi, c'est ce que je croyais au départ et c'est ce qui m'a tiré vers cette langue, c'est l'image.
Non.
Après, on l'oublie. On l'oublie, ça devient tellement féroce d'apprendre ça et de le faire entrer dans sa pauvre petite tête qu'on ne voit plus que des traits qui se bagarrent et qu'on oublie et qu'on recherche incessamment toujours. Quoi. Donc c'est une terrible lutte avec la mémoire et toute la beauté finit par disparaître dans la souffrance. Mais effectivement, c'est une langue en tout cas en relief, qui a une épaisseur. C'est vrai que nous, notre alphabet aussi, il vient d'idéogrammes, mais on l'a oublié complètement. Là, ça nous rappelle, ah mais oui, ces lettres ont quatre pattes, ces lettres sont remplies de terre et d'air. Et c'est ça que je voulais retrouver, ce côté vivant de la langue, ce côté imprégné en trois dimensions, quoi, réaliste.
Et alors justement, dans ce côté vivant de la langue, plus on avance dans le livre, à un moment donné, il y a ces trois contes, des contes que vous avez... réécrit, réinterprété, décalé. Donc le premier, enfin, c'est pas le premier d'ailleurs, mais il y en a un qui je trouvais très parlant, c'est Cendrillon ou la maladie aux bandelettes. Vous l'avez évoqué en début, les Chinois qui bandaient les pieds des femmes pour ne pas qu'elles ne puissent marcher.
Oui.
Et en fait, vous avez rebondi sur cette histoire de pieds et de Cendrillon. Il y a aussi Barbe Bleue, il y a tous ces contes. Pourquoi c'était important pour vous de mettre ces contes dans ce livre-là?
Je pense que le conte permet de dire des choses qu'on ne dit pas avec une langue quand même qui est raisonnée, raisonnable finalement, même si on la travaille, on peut l'expérimenter, la rendre un peu plus hors norme. Mais le conte, il va vers l'image, il va vers la violence. Le conte, c'est la violence quand même, mais la cruauté, mais que même des enfants peuvent entendre. Et qu'ils aiment retrouver. C'est ce qui nous apprend quelque chose de cette violence du monde par les mots. Parce que sinon, si c'est une réalité crue, bon, on va la repousser, on va essayer de l'oublier, on va l'envelopper. Le conte, il parle au corps immédiatement. Et à tous les corps, jeunes ou vieux. Et ça, je trouve que c'est une force du conte. C'est fascinant. Hein. C'est l'imaginaire qui est un lien aussi, finalement, entre nous. Beaucoup de cultures, toutes les cultures, je pense.
Et alors, en toute fin de livre, on trouve une figure qui est très importante pour vous, qui est
Camille Claudel.
Et donc, il y a toute une partie, pareil, dans cette veine des hommages qui sont glissés dans tout le livre, il y a toute cette partie en hommage à Camille Claudel. Vous pouvez peut-être nous lire un peu le début.
Oui. Portrait après 15 ans d'internement et avant 15 autres. Elle a vieilli. Personne ne la reconnaît plus. Qui est-ce? Rodin le chien, en tout cas pas ma fille. Son visage est de la terre froissée, enfin arrivé au bout des esquisses de soie. Il lui a fallu sa vie entière, pas un jour de moins. À la regarder, on a mal aux gencives. Et si aujourd'hui on la visite, sa seule amie lui mettrait de la terre dans les mains ou une pierre. Elle est devenue caillou. Donc c'est devenir par l'art.
Et du coup créer.
Créer.
Une femme qui crée, à l'inverse.
Et son propre corps est devenu une statue.
Oui. Merci beaucoup, je la suis devenue. Merci pour toute cette balade. On pourrait encore en parler vraiment pendant très longtemps parce que c'est un livre très riche avec beaucoup, beaucoup de symboles, beaucoup de références, beaucoup de choses à creuser. Je la suis devenue aux éditions donc Lanskine par Camille Loivier. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette reprise et cette rentrée de Chute Libre. On se retrouve la semaine prochaine où normalement je serai avec Manon Bazille, une poétesse de Rouen qui fait aussi beaucoup de théâtre et du violoncelle. On remercie également Aligue, on remercie la régie, c'était Jade ce soir à la régie, et on se quitte sur une dernière chanson choisie par vous, donc Camille Loivier, Césaria Evora, Sodade. On va enchaîner tout de suite et merci beaucoup d'avoir été avec nous,
Emmanuel.
Et merci pour votre travail.
Merci.
Au revoir à tous. Caminho no...